Salut à tous et bienvenue, vous écoutez Les Éclaireurs. Et salut à tous, bienvenue pour les éclairages, oh je me suis planté, c'est fou. Numéro 16, ce soir on a plein de choses à vous dire, car je suis en compagnie de, alors le spécialiste du tuto maquillage, Matt.
Salut, d'ailleurs je viens de comprendre le rapport entre le phare et les éclaireurs et c'est dingue, c'est fou.
Voilà, c'est pour ça que je t'ai invité. Tu me permettras que je diffuse une petite photo, non
non, 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 c'est bon, ça va.
Avec moi aussi, Musica.
Salut. Salut.
On a, alors, un petit nouveau... Bilou.
Salut.
Et sinon, on a, alors dans la loge, on a l'invité mystère. Invité mystère, bonsoir.
Bonsoir.
Ta voix, elle est trop bien filtrée.
Alors, je vais laisser mes invités deviner en vous posant des questions que vous répondrez par oui ou par non.
D'accord.
Alors, es-tu un homme de sexe masculin?
Oui.
Est-ce que t'aimes bien les Teletubbies?
Pas spécialement, non. Sauf le petit violet, il est sympa.
Est-ce que tu connais la chanson des Rats?
Est-ce que vous avez un rapport avec le monde du podcast?
Alors, oui pour la chanson des Rats, oui un petit peu, avec les podcasts, un petit peu.
Un petit peu, vous êtes sûr?
Est-ce qu'on peut prononcer votre nom?
Ça dépend le nom que j'ai, parce que j'ai plusieurs noms, il y en a qu'on peut pas prononcer, c'est vrai.
Et alors, vous avez trouvé, il s'agit de...
Laurent Doucet!
Eh oui, c'est moi. Bonsoir tout le monde!
Oh, je suis surpris! Salut!
Bonsoir. Ouais, je ne comprends pas.
Ouais, moi non plus.
T'es très fort.
Ah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est...
Superbe imitation.
Ouais, ouais, tu fais très bien le filtre de voix. Alors, un petit épisode un petit peu spécial, vu qu'on a, on a tous plus ou moins eu l'idée de parler de séries télé, donc on va en profiter pour faire une spéciale série télé. Au programme de cette émission, donc des séries de plein de genres différents, d'ailleurs.
Et de plein d'époques.
Ouais, on va commencer avec un truc de jeune, avec Matt. Tu vas nous parler quoi?
The Skins.
Après, ce sera Bilou, alors attention, de quoi tu vas nous parler? Je sais que ça va
une série arriver. Magnifique que tout le monde regrette, Manimal.
Ouais.
C'est couillu de venir avec une série comme ça, quand même.
Ça me correspond bien, couillu.
Mon dieu. Après, ça va être à Musica, on a quoi au programme?
Inside Number 9.
Ah, j'ai hâte d'en parler, ça va être cool. Et avec, ensuite, on va terminer par Laurence.
De Stargate SG-1 en particulier, puis quelques mots sur les autres franchises Stargate, mais surtout SG-1.
Quant à moi, s'il reste un petit peu de temps, je vous parlerai de Castle. Voilà. Alors, on va commencer sans plus tarder. Matt, tu passes en premier, comme ça, je risque pas de me tromper dans l'ordre de ton sujet. Ça va être à toi. Alors Skins,
oui, justement, bah, pour commencer, je dirais que Skins, c'est l'une des séries qui m'a fait le plus aimer la vie avec Six Feet Under. Donc, on va parler ici de Skins UK et pas de Skins US, hein, le remake dégénéré américain qui s'est désintégré en plein vol dès la saison 1.
Donc, en gros, n'a jamais existé.
Voilà, on va préférer ça. Mais si, si, c'est toujours utile d'avoir des séries mauvaises pour se rappeler à quel point d'autres sont bonnes. Donc, bon, si vous avez envie de voir une série très mauvaise, essayez Skins US. Alors, dans Skins UK, on a une série qui a duré 7 saisons, avec 3 packs de 2 saisons de 2007 à 2012. Plus une saison exceptionnelle en 2013 qui suit des personnages des trois saisons, enfin des trois packs de saisons précédents. L'idée c'est de suivre à chaque fois sur deux saisons un groupe d'adolescents anglais dans leur vie. L'une des caractéristiques principales, force ou faiblesse d'ailleurs, c'est qu'on change complètement de casting toutes les deux saisons, sauf toute petite exception. Donc forcément vous préférerez un groupe à un autre, forcément vous trouverez des faiblesses à un moment ou à un autre, mais il y a une grande cohérence quand même dans la série. Alors, on est sur des saisons de 8 à 10 épisodes, avec des épisodes à chaque fois centrés sur l'un des ados en particulier. Là, on a vraiment toute la dualité entre l'image publique qu'il renvoie dans le groupe, on va dire, et sa vie personnelle, qui est souvent un peu merdique, un côté un peu à l'arrache.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Et, ouais, voilà, c'est ça. À chaque fois, t'as un éclairage très fort sur un personnage donc qui ressort du groupe, autant qu'il s'y intègre quelque part. Ce qui était un peu tous notre envie quand on était ado, être original, mais pas trop, quand même rester un peu dans la norme. Donc la série, elle a été énormément critiquée pour son extrémisme, des énormes beuveries avec du sexe et de l'alcool, de la drogue et du rude language. Bon là, je vous ai
du rude language,
du langage ordurier, on va dire.
Oh.
Bon là, j'ai dû vous vendre carrément la série, hein, avouez.
Ah bah complètement là. On les voit tous nus?
Oui, bah, en partie, c'est ça. Mais c'est justement... oui, on voit quelques parties.
Ça a donné d'ailleurs un dérivé plus tard.
Enfin, c'est ça, bah, les skins party, ouais, exactement. Bah, c'est un argument contre la série, c'était de dire que, si je relais les propos des tracteurs, c'est que au travers de toute cette décadence, on ne peut pas s'attacher vraiment aux ados, parce que, bien évidemment, c'est des personnalités complètement exagérées, et voilà, c'est difficile de se rattacher à un personnage. Mais, bien évidemment, on est dans les travers extrêmes des adolescents. Là, on va pas pouvoir dire « Ah mais oui, lui, il est vierge, il est complètement teubé et le comble de la maladresse, je vais pas pouvoir m'identifier à lui. » Ah bah si, en fait, pardon. Oui, bon, lui, on va pouvoir s'identifier. Quand on pense à un autre complètement casse-cou, autodestructeur et très porté sur la boisson, ça va être un peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut voir, c'est que voilà, les personnages, c'est vraiment des exagérations de traits d'ado, quelles que soient les personnalités, vraiment au travers des 6 saisons et de tous les personnages, je crois pas me tromper en disant qu'on peut tous se retrouver plus ou moins dans plusieurs des personnages qu'on voit dans la série. Selon moi, il faut absolument pas résumer Skins justement à ces Skins Party dont parlait Musica. C'est un phénomène qui a apparemment pas dépassé le cap de 2010 ou dehors de...
Ouais, mais il faut aussi penser aux enfants qui vont être nés grâce aux Skins Party.
Voilà aussi,
c'est vrai.
Une très belle génération d'ailleurs. Mais voilà, c'était des espèces de fêtes où des hordes d'adolescents plus ou moins pubères se vautraient dans la drogue, le sexe, l'alcool. Et l'unique but, c'était de choquer, hein, quasiment. Franchement, se laisser aveugler par ça, c'est pas voir le profond mal-être et la grande timidité de presque tous les personnages. Parce que Skins, c'est une série au fond d'une grande pudeur qui traite tous les grands sujets, donc l'alcool, la drogue, le sexe, hein, on en a parlé, mais bien évidemment, bien évidemment aussi l'amour et la mort. Et Skins, c'est une série pleine de moments bouleversants et attendrissants, désarmants, que ce soit dans une larme ou dans un sourire, comme diraient les Smashing Pumpkins.
Il y a de la référence.
Ah, c'est beau.
Hein. J'aime bien.
Alors bien évidemment, je vais rien déflorer ici, mais rien qu'en y repensant pour faire cet article, il y a plein de moments qui me reviennent en tête. Des moments où justement l'image de l'ado social que se fabriquent les personnages, parce qu'ils sont justement dans cette phase où ils se fabriquent une image, bah, cette image se craquelle et on les voit passer dans tous les rites de passage à l'âge adulte, quelque part. Et quand on parle d'adultes, dans cette série, la galerie de représentants est assez gratinée, entre parents absents, démissionnaires ou alors complètement sur-autoritaires, bloqués dans un puritanisme complètement décalé par rapport à leurs gosses. Il y a aussi les profs qui sont parfois plus indisciplinés que leurs élèves, qui feignent d'organiser les cours et la classe, voilà, qui font au mieux que l'apprivoiser par moment, quoi. Pratiquement tous les personnages adultes qu'on voit ne donnent vraiment pas envie de passer à l'âge adulte, justement, puisqu'ils sont tous englués plus dans leur costume d'écolier, mais dans leur costume d'employé ou de parent. Bah surtout, chez quasiment tous, on retrouve une âme de gosse opprimée ou au contraire complètement décadente. Et bah ça, je trouve ça particulièrement intéressant. On est dans une série anglaise, donc forcément, les musiques sont magnifiques, autant les connues que les plus anonymes, ça va sans dire. Y a un soin tout particulier en ce qui concerne le style également de la série, des personnages jusqu'au dialogue. Bon, un style anglais, mais un oui. Style quand même. Voilà, perso, je vois tellement de choses dans cette série que, bon, j'ai personnellement un faible pour les saisons 3 et 4, donc le casting number 2, si vous avez bien suivi. J'imagine que beaucoup de gens y voient seulement
deuxième
une
génération.
Série
la
pour
première,
ados.
Non, la deuxième génération.
Oui, voilà, c'est voilà. Ça.
Oui, c'est ça. 3 et 4, donc deuxième génération.
Voilà, clairement, j'imagine que beaucoup de gens y voient seulement une série pour ados et rien de plus. Je sais pas si des gens parmi vous ont un avis dessus ou ont vu des épisodes.
Ouais, moi j'ai un avis et j'ai une question aussi. Parce que j'ai vu que les deux premières saisons que j'ai adorées, ouais. Mais après on m'a dit que c'était pas trop la peine de continuer, apparemment ceux qui m'ont dit ça n'étaient pas de ton avis. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le casting de prof et d'adulte change aussi après ?
Non, alors on retrouve, enfin, forcément beaucoup
par
de
exemple,
nouveaux.
Par exemple, la prof
quoi.
Qui ressemble à Katy Perry de banlieue, là.
Oui, celle-ci on la voit plus par contre.
C'était pas mal.
Non, celle-ci on la voit plus.
Ah, mince.
Mais effectivement, comme on retrouve certains profs d'une génération à une autre, il y a certains adultes qu'on va retrouver également, ouais. Mais la saison 3 et 4, franchement, valent vraiment le coup, selon moi. Après, c'est les goûts de chacun.
Moi, j'ai pas vu du tout, pardon Musica, j'ai pas vu du tout, mais pour la connexion un peu presque à l'actualité, moi j'avais entendu parler de la série parce qu'il y avait dedans Nicolas Hoult, qui joue le fauve dans X-Men maintenant.
Ah d'accord, il y a Peter Capaldi aussi, je crois.
Et qui a été découvert par About a Boy, qui est un film avec Hugh Grant, et qu'on avait découvert enfant pour un garçon avec Hugh Grant, et qu'on a découvert ado dans Skins, et ça avait beaucoup surpris parce qu'il avait un petit rôle sympa dans Pour un garçon, et dans Skins, il avait un rôle plus surprenant, je crois.
Ah d'accord.
C'est Anthony, de ce que je lis, hein, c'est Anthony Stonem ou un truc comme ça.
Ah mais je vais regarder.
Stonem.
Il y a Armos qui demandait si on peut se retrouver dans des persos même si on n'est plus adulte.
Ah, c'est je pense que quelque part même si on est adulte entre guillemets, on va toujours garder une part d'ado, une part qui a pas fini totalement de se construire, et quelque part je pense que tu vas pouvoir retrouver des choses quand même. Même si j'ai moins de recul que d'autres, forcément, sur la série et là-dessus, mais je pense que si, tu vas quand même pouvoir retrouver des choses.
Toi, tu l'as vu il y a longtemps, la série ?
Je l'ai vu au moment de sa sortie, et je l'ai revu par la suite, parce que vraiment, c'est un tout, c'est la musique, c'est les personnages. Ce qui m'a énormément plu aussi dans cette série, c'est que j'ai eu la chance de faire des échanges aussi avec des échanges au niveau, on va dire, scolaire, avec de débarquer dans des écoles en Angleterre, et j'ai retrouvé vraiment des choses, une ambiance, des personnalités vraiment... voilà, en Angleterre, on s'en fout de comment t'es habillé, même si voilà, la plupart du temps la plupart du temps ils sont en uniforme. Le reste du temps, c'est fou quoi. Enfin, c'est complètement une autre culture, et j'ai retrouvé vraiment une ambiance et une atmosphère que j'ai vue quand je faisais des voyages là-bas.
Et du coup, c'est une série qui se regarde aussi bien ado qu'adulte, enfin qu'adulte que passé la trentaine ou la quarantaine. Est-ce que ça marche aussi bien ou... C'est vraiment réservé aux jeunes.
Je pense que ça marche aussi. Ouais. Non, je pense que ça marche aussi. Maintenant, j'ai pas le même recul forcément, donc c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais ça m'intéresse d'avoir des avis justement de gens.
Bah, à la fois, heureusement qu'on peut regarder des séries qui sont éloignées de nous, que ce soit par âge, que ce soit par... Enfin, les gens qui regardent 24 sont pas tous espions, hein. Enfin, j'espère.
Oui, et puis ceux qui regardent Breaking Bad sont pas tous cancéreux et trafiquants de drogue.
Voilà.
Et puis ceux qui regardent Manimal ont pas tous des poils. Oui.
Non, je demande ça parce que pour moi, la série, c'était une série pour les jeunes, mais vraiment pour les jeunes, parce que tout le monde parlait de ça à côté de moi, mais les adultes, je ne savais pas s'ils regardaient cette série, en fait. Pour moi, c'est vraiment un truc de jeune, cette série. C'est ancré pour les ados. En fait. Voilà, je me pose la question.
Bah, essaye. Le mieux, ce serait d'essayer. Après, j'ai vraiment du mal à avoir du recul, forcément. C'est très difficile à répondre à ta question, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Est-ce qu'elle a été diffusée en France ?
Oui.
Sur quelle chaîne ?
Moi, j'ai rien vu de Skins, à part un épisode qui passait très tard le soir, et voilà. J'ai même vu en VS, tellement j'étais crevée. Mais c'était... Moi,
Canal Plus.
Non, c'était Canal Plus, non, c'était...
Ça a été diffusé sur Canal Plus.
Ah oui, bon, moi j'avais vu sûrement une rediff sur une chaîne du câble, je ne sais plus le nom. Mais oui, ça a été bien diffusé en France en tout cas, pour l'avoir...
Parce qu'après, voilà, ça dépend de qui diffuse et tout, pour l'impact sur les différentes générations. Si c'est pas diffusé en France, par exemple,
c'est moins marqué.
C'est sûr qu'il y aura plus de jeunes qui vont avoir vu, quoi.
Ouais, après...
En France, ça a été diffusé sur... Sur Virgin Mega, Canal Play.
Ah oui, c'était sur... C'était la 17 à l'époque, je crois. Virgin 17,
c'est
voilà.
Ça.
Ouais, c'est ça.
Sinon, je me pose la question, avant d'embrayer, sauf si tu as encore des choses à dire, est-ce que la série a eu une vraie fin ? Parce que ça, j'aime bien savoir.
La saison 7, ce qui est intéressant, malheureusement, je ne l'ai pas encore vu.
Tu parles que c'est tout le temps des doublons de série. Enfin, des doublons de saison.
Oui, c'est ça. Justement, la saison 7, elle est un peu différente parce qu'en fait, elle va reprendre des ados qu'on avait laissés vers la fin de leurs études, on va dire. Et là, on va les récupérer dans leur entrée dans la vie active, en fait. Donc, je pense que ça va être encore plus intéressant de voir ça. Je l'ai pas vu, malheureusement, donc je pourrais pas trop en parler. Mais effectivement, je pense que ça apporte un éclairage sur les parcours de certains, mais pas sur tous, forcément.
Ok, très bien.
Moi, j'ai une question aussi, désolé. Ouais, est-ce que dans la saison 1, c'est bien dans la saison 1 qu'il y a le gars du film, là, merde, attends, mince, pardon, du film nul, Avatar, le dernier maître de l'air, je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas dans Skins qu'il était?
Ça ne dit rien du tout, par contre.
Ah, je ne sais pas du tout.
Dev Patel, enfin celui qui joue l'Indien,
celui qui a joué dans Slumdog Millionnaire, je crois.
Il me semble qu'il est dedans.
Oui, tout à fait. Oui, il est dans les deux premières saisons.
Ouais,
tout
voilà,
à fait.
Dans Slumdog Millionnaire. Voilà. Ça lui rend plus honneur de dire Slumdog Millionnaire que Avatar, c'est vrai.
Mais il est également dans Newsroom.
Oui, exact.
Ah oui.
Je croyais qu'en fait il y avait assez peu. Enfin, ce que j'avais lu sur cette série, parce que bon, comme j'ai dit, j'ai quasiment rien vu. Ben, non, j'ai rien vu même. Et ce que j'avais lu, c'est que il y avait assez peu en fait d'acteurs professionnels. T'avais les parents, bon apparemment t'as quelques adolescents qui sont connus, après tous les autres c'était des adolescents de qui avaient l'âge de leur personnage, ce qui est assez rare aussi, et qui n'étaient pas acteurs à la base. Beaucoup sont des c'est les premiers rôles.
Enfin, alors c'est possible, mais franchement c'est une science du casting assez exceptionnelle parce que c'est un festival de tronches. Enfin franchement, c'est au niveau des personnalités, c'est vraiment génial quoi. C'est vraiment à suivre pour ça.
Ça aurait fait un super tremplin aussi, vu la popularité de la série.
Voilà, oui, c'est carrément, oui, carrément. Oui, le personnage principal de la première saison, en tout cas, bah, il a joué dans X-Men. Mmh. Oui. Enfin voilà, je vous la conseille très chaudement.
Très bien, bah merci. Skins, bon, il va falloir peut-être faire un effort et regarder cette série parce que j'avais pas été intéressé.
J'ai peur que ça choque ton petit cœur péremptoire.
Oh oui, j'ai un petit cœur fragile, hein, tu sais. Alors, très bien. Ben, merci,
un
Matt.
Un petit cœur de chat.
Skins, alors, à conseil.
Ben, merci à toi.
On va passer à Bilou avec Manimal. Oh là là, Manimal. Ressortir une série comme ça du placard, faut le faire quand même.
Eh oui, j'ai repensé, l'autre jour j'ai vu mon chat, je me suis dit, oh, il ressemble à une panthère et tout, et boum, ça a fait connexion. c'est une série que je regardais quand j'étais tout petit, voilà, j'ai l'alarme qui me vient, et on a tous l'impression qu'on a vu plein d'épisodes de cette série, enfin tous ceux qui l'ont vu, mais en fait il n'y a eu que 8 épisodes, en fait il n'y en a eu même que 7, donc, plus le pilote qui faisait...
8 épisodes ? Ah, je pensais que c'était 14.
Non, il y a eu 7 épisodes de 45 minutes et le pilote qui faisait 1h30.
Ah, c'est encore pire que ce que je pensais.
Ah ouais, puis donc c'est passé sur France 3, sur TF1, sur La 5, sur M6. En fait, c'est dû passer sur tellement de chaînes qu'on a dû voir plein de fois le même épisode. On pensait que c'était des épisodes différents. Parce que, en même temps, l'intrigue, on s'en fichait un peu. C'était plus le truc de voir le mec se transformer. Oui, donc je vais peut-être raconter ce que c'est, Manimal. Alors, le pitch, c'est un professeur qui ressemble à Ken, qui est joué par McCorkindale. Ouais. Il arrive à se transformer en animal parce qu'il maîtrise la térianthropie.
Oh.
Ouais, j'ai réussi à le placer. Et donc, il aide un peu à la manière de Sherlock. Il aide la police en se transformant en aigle, en panthère. Et ce qui était bien, ce qui était vachement bien avec cette série, c'est que c'était super dégueulasse.
Ah oui,
à
c'était
voir.
Moche.
Parce que j'ai regardé. C'était super moche. J'ai revu, pour préparer l'émission, j'ai revu un épisode. Mais je m'arrachais les yeux tellement c'était moche. Les couleurs délavées, les transformations, on aurait dit La Belle et la Bête de 1950 par là. cette série, en fait, elle a été diffusée sur La 5 en 1985, sur France 3 en 87. En fait, elle a été diffusée sur 15 ans en France. Aux États-Unis, elle n'a pas du tout marché. Mais en France, vu que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle a bien marché. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vue, cette série.
J'ai juste des petits souvenirs, des bribes.
Ah non, moi je fais partie de la génération qui les a vus effectivement en boucle, qui était persuadée qu'il y en avait beaucoup. Et on restait très impressionnés. Il n'y avait que 3 ou 4 en formation, je crois, mais on restait tous très impressionnés par le truc, quoi.
C'est ça, enfin, moi quand j'étais petit, parce que c'était à l'époque, j'essayais de me transformer après en panthère, avec il y avait des espèces de bulles qui sortaient de ses mains et tout, et après il se transformait en panthère, il allait courir après les méchants, et on savait pas qui était le méchant parce qu'on s'en fichait en fait.
Mais quand t'étais petit, vers quel âge? Parce que moi je me souviens avoir vu cette série entre deux canapés, genre quand j'avais pas le droit, genre 7-8 ans, tu vois, ouais. Et j'avais été terrorisé parce que j'étais tombé sur un moment où il y avait eu une transformation, et j'ai pleuré toute la nuit.
Mais c'est normal, ça faisait trop peur, sa tête quand il se transformait, c'était
ah oui,
c'était
effrayant. Effectivement, c'est hideux.
Ça a été, oui. Ça a été diffusé entre 85 oui. et 91, comme disait Bilou, ça veut dire que ça a été rediffusé et tout, mais dans toute cette période-là.
Mais ça et Thriller de Michael Jackson, c'est mes deux terreurs d'enfance, quoi.
Oh putain.
Je te promets.
Voilà.
Ouais, mais il y en a un qui est plus dansant que l'autre, quoi.
C'est ça.
D'ailleurs, je lis rapidement, premier épisode 30 septembre 83, épisode voilà. final 17 décembre 83, voilà.
Ouais, c'est voilà, dit. Ça n'a pas du tout fonctionné aux États-Unis.
Mais c'est marrant. Alors, à la fois, je pense que c'est une série qui était peut-être trop en avance, finalement. Parce que
ouais, enfin, moi, je me dis que si ça avait été. Si c'est fait maintenant. Si ils le refont maintenant, vu qu'aux États-Unis, ils adorent faire des reboots, plein de reboots. S'ils le refont maintenant, je suis sûr que ça marche. Parce qu'avec les effets spéciaux de maintenant, ça peut trop marcher.
Puis je crois qu'il y avait un peu une idée, ce qu'on a retrouvé bien plus tard, d'un héros où on savait pas trop qui c'était, un peu sombre, qui avait un passé, enfin voilà, il y avait ces petites idées-là.
Ouais, mais bon, c'était vachement maltraité quand même. C'était...
Ah oui, non, mais c'était une série très années 80, hein, finalement.
C'est ça.
Ça fait partie de ces séries qui ont pas marché et qui sont globalement assez mauvaises, mais qui ont incroyablement laissé leurs traces dans les esprits. Hein. Tu demandes à n'importe qui, Manimal, tout le monde se souviendra au moins avoir vu une transformation ou se rappeler quelque chose comme ça.
Alors, c'est fait par le mec qui avait fait Magnum, K2000, L'Homme qui tombe à pic. Voilà, c'était un des mecs qui faisait plein de séries, puis il y a certaines qui fonctionnaient, d'autres pas. Quoi.
Celle-là, de toute façon, il y a vraiment un clivage sur cette série, parce qu'il y en a plein qui la détestent, mais carrément qui voudraient jamais la revoir, mais il y en a plein que ça a marqué, quoi, les transformations dégueulasses, l'aigle, voir un homme voler comme ça et tout, dans les années 80, c'est...
Et à la fois, on n'avait pas beaucoup de fantastique aussi. On en revient aussi à ça, c'est des époques où il y avait peu de fantastique. Donc même les amateurs, je pense que les gens qui aiment ça, moi j'en fais partie, c'est un truc qui m'amuse. Alors à mon avis, c'est difficile à regarder aujourd'hui, mais il y avait un côté, on voyait du fantastique et ça ne nous arrivait pas souvent à la télévision. Quoi.
Ouais, un conseil, ne la regardez plus. Hein. Franchement, n'essayez pas de la revoir. Quoi. Ça va vous gâcher vos souvenirs.
Armos dit sur le chat, en 2002, Manimal a été classé 15 sur 50 des pires séries télévisées, selon le TV Guide.
Ah ouais,
oh,
non, mais
c'est méchant, je trouve.
Non, elle est vraiment nulle, mais elle est trop bien. Mais elle est nulle, mais elle est trop bien.
Mais elle est nulle, mais elle est trop bien.
D'ailleurs, j'avais lu, je sais pas si c'est vrai, dans quasiment tous les épisodes, à la fin, il se transformait en panthère, c'est ça? Si je me souviens bien. Parce qu'en fait...
Ouais, voilà. Bah c'était non, un peu avait... son ultime transformation.
Bah oui, puis il n'y avait que 4. Ils avaient filmé quand en morphing, je crois que 3 ou 4 animaux. Il y avait la panthère, l'aigle. Je sais plus ce qui. Après, donc, du coup, des fois, quand il se transformait en autre chose, tu avais juste l'image où il commençait à respirer, ça coupait, puis après, tu avais le cheval ou le machin.
Mais c'était surtout pour des raisons de coût au final, parce que la panthère revenait tout le temps, parce qu'il n'y avait pas de sous pour faire d'autres morphing. Voilà.
Mais c'est aussi pour ça qu'au départ, elle devait avoir 12 épisodes, mais ils avaient tellement pas de budget qu'ils en ont fait 8.
Ah, c'est terrible de voir des séries mourir comme des séries mourir.
Mais je suis sûr que maintenant, avec un appareil photo et un mec qui maîtrise un peu les effets spéciaux, ils font mieux qu'à l'époque. Donc si quelqu'un a 200 euros de budget, il peut la refaire, la série.
Bon, pas mal. Combien de temps il dure le pilote? Une heure et demie?
90 minutes.
Ah, ça fait long quand même.
Bah, au bout d'une heure, tu saignes un peu des yeux, puis à la fin, tu te dis pourquoi j'ai fait ça, quoi, pourquoi j'ai regardé ça.
C'était le format habituel des doubles épisodes pour démarrer la série, quoi.
Ouais.
Comme ça se fait encore, d'ailleurs.
Souvent.
Très bien, bon. Autre chose à rajouter?
Il me semble que c'est tout.
Ah, Manimal, quoi. c'est bien d'en avoir reparlé, quand même.
Mais c'est ça, la réaction de tout le monde, en fait. À chaque fois, quand on parle de Manimal, c'est... Ah, Manimal, voilà, on peut pas dire que c'est bien, mais...
Ça nous a marqué.
Ça a tellement marqué, en fait.
T'as toujours deux temps quand tu redécouvres Manimal, c'est... Oh, je me souviens. Ah, c'était pas terrible, quand même. Hein. c'était ça. Voilà. Très bien, bah, merci, Manimal. Oh, faut que je regarde ça, c'est fou.
Je vous en prie.
Ça va être à Musica. Musica, tu es prête? Attention, alors, ce jingle est un peu spécial. Hein. Va falloir que tu l'expliques. Number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9. Ça demande une explication.
Ah, j'adore, merci. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est C'est un track de... Comment ça s'appelle?
Evolution.
Voilà, c'est Revolution 9, c'est
ça? Oui, Revolution
9. De l'album blanc des Beatles. Ouais. Lennon a enregistré ça parce que c'est... Il y disait ça avant d'enregistrer les pistes, et t'avais un mec qui disait Number 9 pour la prise 9, tout ça. Et il a samplé ça sur tout un titre.
Et pourquoi Number 9 pour ce sujet-là?
Pourquoi Number 9? Parce que je vais vous parler d'une petite série anglaise, pour faire original, qui s'appelle Inside Number 9. Mm-hmm. Alors, bon déjà, qu'est-ce que c'est plutôt? C'est donc une série anglaise, qui est de 6 épisodes seulement, qui est diffusée sur BBC 2 actuellement, qui a été créée par, attention les noms, Rishi Shearsmith et Steve
Pemberton.
Pemberton. Voilà, merci. Pemberton. Alors, Steve Pemberton, pour ceux qui ont vu Blackpool, c'était le comptable du mec qui avait le casino, dont j'ai oublié le nom. Mais ils sont assez connus, d'ailleurs, dans les séries anglaises. Je crois que le premier a fait... donc, Shearsmith a fait des apparitions dans Doctor Who, quelque chose comme ça.
Ah, ils sont un peu connus. C'est fort possible.
Et sûrement l'autre aussi. Mais enfin bref, ils sont un peu connus dans le milieu. Donc j'ai dit que c'était diffusé sur BBC 2. Ça n'a que 6 épisodes. Le 3e épisode va sortir cette semaine. Et donc, de quoi ça parle? Le principe, c'est que l'on va... Chaque épisode va se centrer sur un numéro 9. Un appartement ou une maison qui a le numéro 9. Voilà, et ça va être de l'humour noir, c'est-à-dire il y aura toujours, ça va être des situations drôles, mais aussi un peu
lugubre,
enfin humour noir quoi. L'humour noir bien britannique comme il faut. Alors la série, il y a donc que les 3 premiers qui sont sortis, et je trouve ça très 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 bon. Ouais. Mais vraiment très bon.
Le souci, c'est qu'on peut pas trop en dire parce que chaque épisode est différent, donc il n'y a pas une histoire générale sur la série.
Ouais, voilà.
Est-ce que tu retrouves des acteurs ou
Alors, oui. Y a pas tous. Il n'y en a que 2 qui sont très récurrents.
Pas dans les mêmes rôles ou...
Non, parce qu'en fait, c'est complètement indépendant. Ça ne se passera jamais dans la même maison ou dans le même appartement. Ça ne sera jamais dans la même ville. Ça ne sera jamais avec le même genre de personnes. Ça va être complètement différent. Et même dans l'écriture, Ça ne sera jamais pareil. C'est-à-dire, tu peux avoir... Je vais pas spoiler. Mais...
on peut juste dire, ouais. Par exemple, l'épisode 2 se fait en mime. Enfin, il n'y a pas de parole de tout l'épisode, sauf à la fin.
Oh, c'est ça. Alors que dans le pilote, tu avais... c'était quasiment tout en dialogue. Les autres aussi. Enfin, le 3 aussi. Mais c'est... Enfin, c'est bien... C'est très différent des uns des autres. Le pilote, personnellement, j'ai trouvé un peu bizarre, mais j'ai adoré la fin.
Oui.
Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le truc, je m'y attendais pas du tout. Alors le deuxième et le troisième épisode sont vraiment magnifiques.
Non, moi, c'est le 3 que j'ai moins apprécié, mais bon, vas-y.
Bon, le 2, il est vraiment... C'est à crever de rire.
Sublime.
Ah oui.
C'est de l'épisode à twist ou
ah oui.
C'est,
oui, là, ouais.
C'est structure twist quoi.
Ben, tu verras, moi ça m'a fait beaucoup penser à des comment ça s'appelle, des nouvelles de Roald Dahl.
C'est d'anthologie en fait.
Moi ça m'a fait beaucoup penser à des nouvelles de Roald Dahl quand il faisait des comment dire, comme par exemple, je sais pas si vous connaissez la nouvelle Coup de gigot, c'est-à-dire en fait c'est une femme qui commet un meurtre par folie, tout ça, et puis ça va se finir d'une drôle de manière, tout ça. C'est... Il faisait toujours ça dans l'humour noir, et c'est tellement british dans le truc, j'adore. Franchement, j'adore. Et c'est une des séries coup de cœur. Franchement. C'est à voir, et c'est en train d'être diffusé.
Mais le format est très particulier, à mon avis, ça peut être qu'anglais. Mais c'est plutôt drôle, c'est plutôt réaliste, c'est plutôt fantastique. Ça dépend de chaque épisode.
Ouais, plutôt chaque épisode. Et bon, après, ça reste quand même. C'est de l'humour anglais. C'est-à-dire, des fois, tu peux avoir des trucs complètement absurdes, mais vraiment absurdes. Voilà. D'autres qui vont être plus réalistes. Et d'autres, ça va être amené petit à petit, tout ça. Enfin, t'as un peu de tout. Il y a juste un gros souci, enfin un gros souci pour moi, c'est que donc elle ne dure que 6 épisodes, et je pense que ça va faire comme une autre série qui m'avait beaucoup plu, qui s'appelle My Life in Film, qui n'avait eu une seule saison, mais de 6 épisodes.
Non, en fait, ce qui est intéressant dans la série, juste, ouais. c'est que c'est basé sur le concept du huis clos. Donc chaque épisode va être un huis clos. Juste pour vous expliquer, enfin sans trop vous spoiler, le premier épisode se passe dans une armoire. Voilà.
Ouais.
C'est dans une armoire. Donc, à partir de là, allez regarder le premier épisode.
Ouais. Le premier épisode qui s'appelle d'ailleurs Sardine.
Et Sardine, voilà.
Le concept avec des épisodes détachés, ça fait penser à Black Mirror aussi. Et j'imagine que
c'est ce que j'allais dire.
Ouais, c'est ça, en fait. Oui, après, bon, j'ai vu qu'un épisode de Black Mirror, mais...
Regarde le reste.
Oui, je me...
C'est trop bien.
C'est un ordre.
C'est tellement bien.
J'ai déjà un peu souffert, en fait, pour le premier. C'était choc, mais après, c'est bon. De l'eau a coulé sous les ponts.
L'épisode qui suit, c'est le meilleur de tous les épisodes. Faut trop le voir, l'épisode 2 de la saison 1, il faut trop le voir.
D'accord, ouais.
Mais c'est du format à combien de minutes?
C'est 30 minutes. C'est vraiment, tu peux regarder ça très facilement.
Voilà, c'est juste qu'il faut passer l'épisode pilote qui a un gros manque de rythme, surtout au premier quart d'heure. Mais une fois que vous avez passé ça, et que vous avez le twist final...
Une fois que tu te fais chier dans le placard depuis un quart d'heure, je pense tu poses un peu plus les choses.
Autant les autres épisodes bougent parce qu'on voit les autres pièces de la maison, là tout se passe dans une seule pièce et dans un placard. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance à trouver ça un petit peu trop lent et trop statique.
Oui, c'est ça. Et puis après, je l'ai vu vraiment en anglais, sous-titré en anglais, donc peut-être aussi ça fait un peu défaut, mais... Mais après, ça reste quand même assez bien. Et je répète la chute de l'épisode. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Péremptoire, mais j'ai trouvé la chute absolument géniale.
Quel épisode, le premier ?
Oui, le premier.
Ah, terrible, terrible.
Oui, la chute était vraiment géniale. Voilà,
allez voir, c'est
ce teasing sympa que vous faites.
Vertov dit qu'avec une série qui s'appelle Inside Number 9, ils auraient pu faire 9 épisodes.
Ah, mais ça aurait été génial, oui. Ça aurait été génial. Et alors, juste pour revenir un peu sur les créateurs, parce que j'ai oublié un petit peu d'en parler au début, c'est que ces deux-là, ils ont déjà travaillé ensemble sur une série qui s'appelle Psychoville, donc qui est en deux saisons, plus un épisode d'Halloween, qui en fait, ça reprend un peu ça, c'est un corbeau qui va envoyer la même lettre manuscrite à 5 personnes en disant « je sais ce que vous avez fait », et donc ça va, voilà. Et puis ils vont en renvoyer, etc. Donc,
ces petits gars ont beaucoup d'idées. Hein.
Mais c'est dramatique, mais à quel point en fait enfin,
Inside Number 9 ?
C'est dur ou c'est...
Tu sens une tension qui monte à chaque épisode.
Ouais, voilà, tu attends le twist un peu, tu vas te dire...
T'attends le twist et tu sais que tu seras étonné à la fin.
Tu sais qu'il y aura un truc qui va être un peu... qui va être dans le noir, dans l'humour noir. Tu sais qu'il y aura un truc comme ça.
Tu vas te prendre à contre-pied et puis tu vas repenser à tout l'épisode au final. Mais c'est dur d'en parler. Allez voir, franchement.
Ouais, voilà.
Ouais, j'entends ça.
Non, c'est vraiment à conseiller. C'est vraiment un petit coup de cœur là, de ce début d'année.
Inside Number 9 à conseiller sans modération. C'est excellent. Mon cher Laurent.
Oui.
Ah, on va parler de Stargate là. J'ai hâte. Ouais.
Tu as triché, c'est le générique d'Atlantis. Bah
alors,
oui.
Tu m'en voudras pas d'avoir mis le générique de Stargate Atlantis, parce que je l'adore ce générique.
Non, il est très beau.
Je pourrais l'écouter.
Alors, on vient de parler de deux séries de suite dont une avait 8 épisodes et l'autre 4. Moi, je vais vous parler d'une série donc, qui s'appelle Stargate SG-1. Puis je vous dis, après, je vous ferai un tout petit truc sur la franchise, mais qui est composée de 214 épisodes.
Eh oui.
Quand même, réparti sur 10 saisons. Ça a été diffusé sur Showtime pendant 5 ans, puis après sur Sci-Fi Channel pendant 5 ans. C'était créé par Brad Wright et Jonathan Glazer, d'après évidemment le film Stargate de Roland Emmerich, que j'aime pas beaucoup moi. C'est pas bon.
Ah, que j'adore moi, j'adore.
C'est un peu mou, bref.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord pour ça.
Ça a été diffusé majoritairement en France sur M6, puis un peu les deux dernières saisons sur W9, pardon. Qui est aussi du groupe M6, mais enfin bon. Bon, alors le pitch, on va aller très vite. Hein. Les Terriens ont découvert un gigantesque objet qui leur permet, le Chapai, la porte des étoiles, qui leur permet de voyager de monde en monde à travers l'espace. À partir de là, ils vont découvrir qu'il y a des ennemis très très méchants à travers l'espace, mais aussi des alliés et évidemment cette découverte va permettre à l'univers entier de découvrir la planète Terre aussi. Donc voilà, ils vont rentrer dans les jeux intergalactiques en matière de politique, de guerre, de tout ce qui s'ensuit. Alors, moi, c'est une série que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai découvert sur M6 à l'époque, alors que je vous dis, j'avais aimé le film, mais qui avait une ambiance. Alors, le principe, c'est que les premiers méchants font passer pour des dieux égyptiens. Donc, il y a tout un folklore esthétique et même de trucs égyptiens où il y a un nombre de dieux égyptiens qui se battent entre eux. Donc les scénaristes vont beaucoup jouer avec ça. Les deux dernières saisons se tournent plus vers les dieux médiévaux avec Camelot, avec la légende arthurienne comme base. C'est une série qui démarre en 97 comme une série d'exploration avec des petits budgets. Oui. Donc on est au départ sur quatre personnages qui explorent une planète chaque semaine quasiment. Voilà, avec des alliés, avec des petits problèmes, avec chaque semaine, c'est très simple. Souvent, c'est très drôle parce que c'est toujours tourné au même endroit, donc on retrouve toujours les mêmes sapins.
Ils vendent les mêmes cailloux.
Voilà, ouais. Ils traversent l'univers entier, tout le monde parle anglais tout le temps, donc ça, c'est très pratique.
Ils l'ont pas justifié, ça. C'est dommage qu'il ait pas justifié. Alors, même une justification à la con.
C'est compliqué. Si, parce qu'ils expliquent au départ que les anciens dieux égyptiens ont disséminé des humains à travers la galaxie. C'est un peu ça le principe. Donc après, ils ont tous évolué de la même manière, mais bon.
Oui, c'était dans l'épisode 172, péremptoire, tu l'as pas vu.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, donc on part sur une série d'exploration, comme l'était un peu Star Trek, finalement, la série originale, où chaque semaine, il y avait la planète du moment. Et puis, la série va tourner au cours de la saison 3 ou 4, dans une série qui va devenir, pas politique, mais en tout cas où ça va être plus de l'exploration, il va y avoir des alliances, il va y avoir des ennemis, des alliés, ça va prendre une dimension beaucoup plus grande, et la série va être assez maligne là-dedans, à partir notamment d'un épisode où ils vont se mettre à négocier avec certains méchants. C'est-à-dire qu'on va, les gros méchants qui sont les Goa'uld, donc qui sont des extraterrestres qui rentrent dans des hôtes humains, voilà. Au bout d'un moment, ils vont se mettre à négocier avec. Et la série va prendre une tournure très différente et ça va être vraiment très réussi. Mais la clé de Stargate SG-1, ce qui fait toute la saveur, c'est évidemment les personnages qui sont quatre principaux.
Qui se complètent très bien.
Qui se complètent très bien. Qui est une équipe classique parce que vous avez le colonel O'Neill, donc, qui est joué par Richard Lee Anderson, qui est le militaire de base. Le chef, mais un peu brut de décoffrage. Vous avez Daniel Jackson, qui est joué par Michael Shanks, qui est l'archéologue, donc celui qui va être intéressé par les cultures différentes, qui va être finalement le civil du lot. Le colonel Carter, qui est joué par Amanda Tapping, qui est la scientifique, qui est aussi une militaire, mais qui est la scientifique. Et vous avez Tilk, qui est joué par Christopher Judge, qui est l'extraterrestre, donc qui est le super combattant. Et puis qui doit en plus s'adapter un peu au monde humain parce que donc voilà. Et cette équipe effectivement fonctionne très très bien. Le casting est vraiment réussi. Ça nous a fait drôle pour les gens qui avaient regardé la télé dans les années 80 de retrouver Richard Dean Anderson, tellement célèbre pour MacGyver, sans sa coupe mulet et surtout dans un rôle à l'antithèse. MacGyver détestait les armes. O'Neill, il tire et puis après il discute.
C'est exactement ça.
Donc voilà. Donc ça nous a fait plaisir de le retrouver là-dedans et ils incarnent tous les quatre parfaitement et ils vont tenir la série pendant presque 8 ans parce que Michael Shanks fera un aller-retour à un moment, il sera remplacé temporairement par
Corinne Nemec.
Absolument, qui jouait Parker Lewis. Et puis dans les deux dernières saisons, Richard Dean Anderson prend de la distance par rapport à la série parce qu'il commence à vieillir un petit peu, parce qu'il a envie aussi
commence à grossir
un petit peu. Et puis il est remplacé très bien par Ben Broder, que les fans de Farscape connaissent bien.
Et oui.
Parce que c'était un des héros de Farscape. Et il y aura aussi Claudia Black qui jouera Mala Valdoran, qui sera aussi d'ailleurs issue de Farscape. Donc qui viendra compléter. Et les deux saisons finales, malgré le changement de casting, moi je trouve réussissent très très bien. Il y a aussi une autre chose que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que derrière le côté. Alors c'est une série fantastique de SF. C'est quasiment du space opéra avec des vaisseaux, avec des armes laser, enfin voilà, avec des questions. On aura du voyage dans le temps, on aura vraiment tous les classiques des séries fantastiques. Mais le rapport au faux dieu, parce que tout les Goa'uld, c'est le rapport à la déification et au fait que les Goa'uld se font passer pour des faux dieux. Et il est très compliqué pour les humains de convaincre un certain nombre de populations que ce sont des faux dieux et que les et qui doivent absolument se mettre à choisir par eux-mêmes et à choisir leur dieu entre guillemets. Et je trouve qu'il y a une réflexion et qui est encore plus poussée avec les deux dernières saisons de la série avec l'arc ce qu'on appelle les Ori, qui sont pour cette fois-ci pas des vrais dieux mais des vraies puissances. Autant les Goa'uld, c'est des extraterrestres qui ont de la technologie, qui se font passer pour des dieux. Autant les Ori, qui sont les méchants des deux dernières saisons, se font vraiment, vraiment une puissance supérieure. C'est des êtres élevés à un plan d'existence encore supérieur. Donc c'est encore plus compliqué. Mais je trouve qu'il y a souvent un rapport sur la croyance, sur le libre arbitre, qui est plutôt bien abordé, qui est plutôt intelligente, qui est menée beaucoup par Daniel Jackson, le personnage joué par Michael Shanks, et qui est vraiment maligne. Donc derrière la série simple, il y a vraiment quelque chose de plus fin et voilà. Après, en plus, je vais faire plaisir à Stiera qui aime beaucoup la série. Il y a une relation entre les personnages absolument réussie. Il y a une relation entre le colonel Carter et le colonel O'Neill, alors qu'ils ne peuvent pas se déclarer leur amour. C'est Richard mais, Anderson ouais. Amanda Tapping. Parce qu'ils
ça,
sont
c'est tout... l'habituel duo amoureux qui.
Parce qu'ils sont dans l'armée, oui, mais. C'est d'ailleurs jamais résolu complètement, on ne sait pas. Non. Voilà. Et puis, il y a aussi Daniel, et on verra que Daniel, qui a une première femme qui disparaît. Et puis après, il va tomber amoureux bien plus tard de la Val d'Oran, dont je parlais tout à l'heure. Il y a des relations très fortes qui se nouent là-dessus. La série a été conclue par deux téléfilms. Un qui conclut vraiment la série, l'Arc des Ori, qui s'appelle L'Arche de la Vérité. Et le deuxième qui s'appelle Stargate Continuum, qui est plus un jeu sur le voyage temporel, plus amusant, mais oui. Qui est assez indépendant. Qui est un très bon téléfilm, mais qui est assez indépendant. Mais pour l'inquiétude de péremptoire tout à l'heure, je trouve que la série se termine vraiment. Voilà. Après, on n'a pas le destin de chaque personnage, mais en tout cas, il y a une vraie évolution de personnage. Et on a fini par les aimer beaucoup à travers ces 10 ans. Il y a aussi une autre chose qui fait que j'aime beaucoup la série. Il y a toujours un second degré. Ça veut dire que souvent Stargate se moque d'eux-mêmes. Alors il y a deux épisodes mythiques qui sont le centième et le 200e, où dans le centième, il y a un personnage qui essaye de vendre à Hollywood le concept de Stargate. Enfin, il y a tout un truc compliqué là-dessus. Mais du coup, le colonel Lee se retrouve sur le plateau d'une série qui est comme le plateau de Stargate, mais dans une version hyper cheap. Donc, c'est assez rigolo. Et puis,
c'est une belle mise en abîme de Stargate.
Absolument.
Dans Stargate,
et puis, souvent, il se moque un peu sur le côté « Bah oui, Carter, vous trouvez toujours la solution, trouvez encore la solution. » Enfin, à un moment, elle dit « Mais attendez, c'est pas, j'arrive à chaque fois, je trouve pas tout le temps. » Enfin, il y a un petit recul, je trouve, assez rigolo sur ces personnages et sur ce qu'ils vivent à travers la série. Et il y a beaucoup d'épisodes qui en parlent et c'est plutôt rigolo. La série, effectivement, a eu presque 3 spin-offs, si on pourrait dire. Il y a eu une série animée qui s'appelle Stargate Infinity, qui a duré qu'un an, je crois, on pourrait.
Ouais, qui était très anecdotique. Hein.
Voilà. Alors, je vais commencer par de l'anecdotique au moins anecdotique. Il y a Stargate Universe, qui est la dernière en date, qui datait de 2009, qui a duré 2 ans, avec Robert Carlyle en tête. Alors que moi, j'ai pas encore vu, j'avoue. Et qui était intéressante, ils étaient sur un vaisseau perdu. Et ils se baladaient de monde en monde aussi. Alors, il y a eu un rajeunissement d'une partie du casting de la série qui n'a pas été très apprécié. La série n'était, paraît-il, pas mauvaise. Et à mon avis, elle s'est arrêtée au même moment où ça commençait à prendre un petit peu.
Oui, ça, je suis d'accord.
Et puis, le spin-off majeur était Stargate Atlantis, parce qu'à un moment, on découvre une base antique dans une autre galaxie. Et on va envoyer cette fois une équipe de civils, principalement, avec des personnages, dont certains qu'on avait déjà vus dans Stargate SG-1. Et là, la série est plus intéressante, avec un des nouveaux méchants aussi beaucoup plus horribles, qui sont les Wraiths. Voilà, qui sont une sorte de vampires un peu particuliers. Pareil, la série, au bout d'un moment, marche sur les personnages. Elle met quelques épisodes à démarrer, et puis dès qu'on voit d'autres alliés humains compliqués avec qui les relations se tendent, ça devient plutôt intéressant.
Oui. Par contre, la fin est bâclée.
Alors là, je te laisse la formule. C'est possible qu'ils aient dû arrêter de manière plus compliquée la fin.
Il y avait de quoi faire une saison encore, mais je pense que
voilà. Alors,
le dernier épisode est expédié à la vitesse de la lumière.
C'est un peu dommage. Alors c'est vrai que la franchise, c'est quand même une des franchises de science-fiction qui a duré le plus longtemps. Ça a sauvé la MGM à un moment où la MGM avait beaucoup de problèmes financiers. Les seules franchises qu'ils avaient qui fonctionnaient étaient Stargate et James Bond, pour l'anecdote. Mais je trouve qu'il y a un univers global qui est extrêmement cohérent, extrêmement intelligent. Et c'est un vrai plaisir de les retrouver dans les petites histoires comme dans les parce qu'on est typique dans la série où vous avez le filer, c'est-à-dire la peuplade de la semaine, et puis toute une construction avec les ennemis, différents ennemis récurrents et les alliés récurrents qui vont venir, et le mélange est bien équilibré, et vraiment, c'est emmené, c'est souvent drôle, voilà, mais c'est vraiment beau, et moi je recommande, et je trouve vraiment la série réussie d'un bout à l'autre. Moi j'aime toutes les saisons.
Mais est-ce que tu conseillerais de commencer maintenant ou pas?
Alors,
est-ce que
c'est compliqué parce que
c'est compliqué.
Alors c'est compliqué parce que SG1, les premières saisons, ça sent que ça a 97, même si je trouve qu'ils ont joué intelligemment. Tout à l'heure, Bilou parlait de Manimal qui a essayé, à mon avis, de faire au-delà de son budget malgré tout. Quand je parlais des sapins, des trucs, au début c'est cheap, mais c'est simple. Ça veut dire qu'à un côté, ils n'essayent pas. Pour avoir les premiers vaisseaux spatiaux, il faut attendre presque un an et demi. Alors le pilote, il y a un peu de budget, mais après, ils prennent le temps, je trouve, de mettre en place des choses vraiment compliquées, on va dire, d'effets spéciaux. Puis on arrive à des choses très belles, mais un peu plus tard. Donc il faut s'attendre un petit peu à se dire les premiers épisodes, la première saison, les deux. Entre la première et la deuxième, on va dire, ça, faut accepter la date de la série, faut accepter et puis une certaine mise en place. Après, je trouve qu'il y a dès la première saison des épisodes qui marchent plutôt pas mal. Les personnages ont très vite des fêlures, des choses à explorer intéressantes. Le personnage d'Oni, il a perdu son fils. Le fils, alors bon, c'est pas du spoil vu que c'est dans le film, c'est la base. Le fils d'Oni, il s'est tué avec son arme de service à lui. Lui, colonel, son fils a trouvé l'arme de service, s'est tué avec. Donc O'Neill porte cette douleur tout au long et ça sera exploité un certain nombre de temps. Mais moi, je conseille de démarrer malgré tout par le début. Après, honnêtement, à mon avis, à démarrer en saison 3, même si on n'attrape pas tout, à mon avis, oui. C'est pas aussi compliqué que ça, quoi.
Non, t'as des épisodes dispensables.
Ouais, juste, est-ce que c'est le genre de série que tu peux regarder en français sans que ce soit trop dérangeant?
Ah ouais, moi je trouve que c'est très bien doublé.
Oui, ça je suis d'accord.
Le doublage, on était dans les années 80, dans les débuts des années 2000, et je pense qu'il y avait un effort de doublage qui était vraiment bien fait. J'ai pas les noms de doubleurs, mais il me semble que c'est des gens que j'ai déjà entendus, mais ils sont plutôt bien doublés. Non, ça, il n'y a pas de souci. Moi, des séries mal doublées, d'accord, les comédies sont plus difficiles à doubler souvent, donc le doublage de comédie souvent est foireux. Là, on n'a pas que de la comédie, on a une série de science-fiction, donc c'est pas. Ça repose pas là-dessus, quoi.
Ok, bah pourquoi pas.
Ouais, ça vaut le coup. C'est une très bonne série.
Voilà, avec
t'as vraiment des épisodes.
Ça remplit un peu la to-do list, hein, dès que tu le mets dedans, je pense. Mais...
À chaque fois, j'ai une to-do list qui se remplit dès que je fais un épisode, c'est dingue.
Et c'est bien parce que les doubleurs n'ont pas changé avec les années, par contre, en français. Ça arrive et ça, les doubleurs sont les mêmes du début à la fin. Donc voilà, donc je recommande chaudement d'essayer. Quand vous êtes en manque de space opéra, il y en a un peu plus aujourd'hui. Il faut penser qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Bon, on a Battlestar Galactica, on a un certain nombre de choses, mais c'est encore d'abord parce que c'est des séries qui coûtent très très cher, mais c'est des séries qu'on n'a pas souvent. Voilà. En ce moment, je sais qu'il y a Elix, mais non, c'est pas un space opéra, je vous dis des bêtises, mais bon, voilà. Des fois, c'est compliqué à réussir, un space opéra. Il y en a beaucoup qui sont pétés les dents et c'est compliqué à réussir.
Ok, très bien. Bon, on va passer à la suite. Ah, j'ai le temps de parler d'un petit truc rapidement.
Vas-y, ben oui.
Allons-y.
Richard
Castle. Bon, vous connaissez Castle. Bon, je pense qu'on en a suffisamment entendu parler, ça passe sur France 2.
C'est l'homme qui fait craquer toutes les mamans.
Je comprends, Nathan Fillion, franchement. Alors, Castle, une série policière américaine, c'est une comédie dramatique policière. Rapidement, le pitch, sans trop spoiler, c'est Rick Castle, c'est un célèbre écrivain de romans policiers. Il a d'ailleurs écrit une série de romans avec un personnage qui marche plutôt bien, mais lui, il s'ennuie et il décide de tuer son personnage pour passer à autre chose. C'est dans le premier épisode, hein, ça arrive très vite. Même c'est la première minute, je crois. Et donc, lors de la soirée de promotion du livre, la police, en la personne du lieutenant Beckett, vient le contacter pour lui poser quelques questions, parce qu'en fait, il se trouve qu'il y aurait un tueur quelque part qui tuerait ses victimes en copiant les meurtres décrits dans les livres de ce cher Rick Castle. Et donc, voilà, c'est là que ça commence. Il se voit alors contraint de collaborer avec la police. Et une fois l'enquête terminée, il trouve le moyen de continuer à suivre la police dans son travail. Et il va s'inspirer du lieutenant Beckett pour créer un nouveau personnage de roman. Là, la série en elle-même est pas extraordinairement originale, hein. ça reste une série d'enquêtes assez classique, une enquête par épisode avec des gars qui parsèment l'épisode. Mais j'aime beaucoup cette série pour plusieurs raisons. Alors d'une, cette série s'inscrit dans un genre que j'aime beaucoup, c'est les séries avec un duo d'enquêteurs un peu atypiques. Ici, bon, on a un flic et un écrivain. Par exemple, j'aime beaucoup Psych parce que c'est un faux médium.
C'est toujours le collègue qui n'est pas policier. C'est un policier, quelqu'un qui ne l'est pas, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, c'est ce genre de série que j'aime bien. Même si Psych, c'est pas la même chose. Ou même X-Files, dans son genre, c'est un duo d'enquêteurs assez atypique, hein, au final.
Bah, en tout cas, ils ont un truc qui les oppose. Au départ, ils n'ont pas dans le même sens, exactement.
Quelque chose qui complète bien les personnages. T'as toujours un personnage externe à la police qui apporte quelque chose. Et j'aime bien voir l'apport d'un personnage atypique dans une enquête, en fait. En deux, les intrigues, elles sont globalement assez bien écrites et assez variées. Et les structures d'épisodes sont c'est assez classique. Hein, ça...
bah, c'est un cop show, quoi.
Voilà, c'est très classique dans le déroulement, au final. Ça, on peut pas changer en même temps. Et en trois, et là, le personnage de Rick Cass, qui est joué par Nathan Fillion, et qui, disons-le, il pète la classe. Voilà. Je peux pas dire autrement, sérieusement. Il campe un personnage assez détaché, un peu flegmatique, pas très sérieux, charmeur, mais aussi très intelligent. Et d'une manière de toute façon générale, Nathan Fillion, c'est vraiment un super acteur que j'adore. On l'a bien vu dans... C'est dans quoi? Dans Firefly?
Firefly.
On l'a vu aussi dans...
Serenity,
de Joss Whedon.
Serenity, qui est le film de Firefly, je crois.
Il y a un autre truc de Joss Whedon, c'est
Dr.
Rebel.
Ouais, excellent là-dedans. Oui.
Et il a été dans Community très récemment.
Ah, c'est possible. J'ai pas vu.
Ah oui, il paraît qu'il a... Je sais pas s'il a eu un grand rôle dans Community, je crois.
Non, non, il est apparu comme ça vite fait, mais ça fait toujours rire, puis plaisir de le voir.
Je l'ai même vu dans des films moins racontables, mais où il apporte une présence impressionnante, quoi.
Voyage au centre de la Terre.
Non, je pensais il est dans le deuxième Percy Jackson.
Oui.
Pour dire, mais... tu parles.
Non, mais c'est pour dire que.
Sauvé le soldat Ryan aussi.
Oui. Mais voilà, effectivement, ce que dit Péremptoire, la série repose sur lui et très très bien parce qu'il apporte quelque chose. Ça pourrait pas être quelqu'un d'autre. Enfin, il y a des séries. On parlait de Skin tout à l'heure où c'est pas le casting qui est essentiel, même s'il est fort. Là, si t'enlèves Rick Castle, la série, d'une part, elle porte son nom, mais de toute façon, en plus, elle est complètement axée sur lui et sur Beckett, évidemment. Parce que ça va bien finir par fricoter, hein.
Oui, bien
quand
sûr.
Tu vois la carrière du gars aussi, c'est normal que
c'est prévisible.
Ça puisse reposer sur ses
mais,
épaules.
Barberousse nous dit que Castle, c'est un peu arabesque 2000, en fait.
Bah oui, mais il a raison, mais ça marche.
C'est assez ça, ça marche. La comparaison, c'est beau.
Mais par contre, ce qu'on disait, tu vois, la preuve, c'est qu'il plaît autant à ma maman qui a plus de 60 ans qu'aux jeunes filles qui ont 30 ans. Enfin, c'est très rigolo. Le mec, il a un charisme de ouf, quoi. C'est-à-dire que il rentre dans une pièce, c'est bon, quoi. Et j'aime beaucoup Péremptoire parce que au départ, ils ont tous des gilets pare-balles avec marqué police ou FBI. Non, c'est la police.
Police,
et lui il a un gilet pare-balles avec marqué écrivain dessus,
writer.
Et j'aime beaucoup parce que c'est détail
c'est le petit
mais
détail
ça fait rire.
Rapidement, en bémol, quelques moments un petit peu gros dans certaines intrigues. Ils essayent de faire original, donc des fois ça passe pas trop. Et aussi des personnages secondaires qui sont un peu trop lisses, je pense au duo d'enquêteurs, là, Ryan et Esposito. J'ai vu que les deux premières saisons, mais pour l'instant, c'est des personnages. Ils sont là pour faire les sidekicks, aider, faire avancer l'enquête, mais ils manquent de relief en fait.
Ah donc tu sais pas toi s'ils vont être ensemble ou pas alors, c'est ça le truc.
Qui Castle et Beckett?
Bah oui.
Bah je m'en doute, hein, tu sais.
Par contre je trouve dur parce qu'autant, oui alors les inspecteurs sont moyens, autant je trouve sa fille et sa mère, parce que Castle est entouré de vie avec, il n'y a plus sa femme, mais il vit avec sa fille et sa mère à lui, et je trouve le duo marche très très bien, et voilà. Il y a un syndrome où voilà, quand il a des problèmes à la maison, c'est mis en parallèle avec l'enquête, enfin voilà, c'est ce schéma-là assez classique mais qui marche bien.
Mais il s'est pas rasé parce que tu dis il est atypique.
Ok, donc, c'est bien, c'est dommage, on avait pas Randall, mais on pense à lui. Hein.
Merci, je l'avais pas eu encore.
C'est horrible, tu dis ça comme s'il était mort.
Oh.
Une pensée hein, pour Randall, parti trop tôt.
Parti à 21h12. Aussi, juste pour terminer, un manque d'histoire fil rouge dans la saison 1 et la saison 2. Ça manque d'un petit twist de fin. Enfin, j'aime bien, moi, quand il y a un petit fil rouge qui dure.
Ça manque d'un méchant, quoi.
Ouais, ça manque d'un grand méchant pour l'instant. Mais bon, j'ai pas vu la suite. Je sais pas, une petite intrigue secondaire en fin d'épisode.
Non, mais ils ont peut-être eu du succès trop tôt, alors ils se sont dit, bon, les histoires, on va les garder pour les saisons d'après quand on va commencer à galérer.
Voilà, donc si vous aimez le genre de série, allez-y. Bon, il y a rien de complètement nouveau. Si vous aimez pas les cop shows, bah.
Vous aimez faut savoir qu'ils ont poussé le truc à sortir les livres écrits par Castle. Vous les trouvez dans les FNAC.
Je pense que je vais les acheter. Juste pour voir. J'en ai acheté un pour voir ce que ça donne. Voir si c'est bien écrit. Très bien. Ben on a terminé. On va passer à la conclusion. Ah, ce jingle m'avait manqué. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur la chatroom. Vous avez été courageux. Merci à vous, les invités, d'être venus blablater. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? On terminera par Laurent, parce qu'il a un CV de 3 km de long. Donc. Alors, on va commencer par Musica. Où on te retrouve?
Ben, sur Twitter, @musica_du_mn. Et après, sur un petit blog.
Vas-y, fais ta pub.
Non, je vais pas faire ma pub. Donc, non, mais si vous tous allez sur mon Twitter, vous allez bien, vous aurez le blog. Oui, je ne ferai pas ma pub.
Il y a du SoundCloud, non?
Non, il n'y a pas de SoundCloud, ça n'existe pas.
Ah pardon, autant pour moi.
Matt, on te retrouve où?
Sur Twitter, Matt Loves. Et maintenant? De temps en temps dans Quid Novi, peut-être.
Ah, ça y est, il est là.
Bah, j'ai le droit de le dire, c'est bon, je vais me faire tuer, c'est bon.
Répasse ça, Laurent. Hein.
De quoi? Bah ouais, moi je sais, Quid Novi, veut pas de moi.
Moi aussi, ouais, j'étais dans Quid Novi, et pas toi.
Alors, Bilou, on se retrouve où?
Moi, sur sur Twitter, au prochain épisode. @prochain épisode, et bientôt sur YouTube. Waouh, le teasing.
Enfin, du nouveau. Et on va terminer par Laurent. Laurent, vas-y.
Alors moi, si vous voulez de la classe, alors le Twitter, c'est @LaurentDoucet. Si vous voulez de la classe et de la sobriété... Ah, c'est mignon comme musique, ça. Il y a le Bro Clash, THEBROCLASH, que je fais avec mon frère, dont le dernier numéro portait sur Harry Potter, les livres. Et si vous voulez entendre des trucs un peu crades, un peu sales, maintenant je fais partie de l'équipe de Ça va trancher.
C'est pas beau à entendre.
Sur Bad Geek.
Ah, j'aime bien Ça va trancher.
Dont le prochain épisode, j'en profite, aura lieu le 15 mars en live d'un bar de gamers, si j'ai bien compris, à Nantes. Donc voilà, nous serons une partie de l'équipe réunie en live à Nantes le 15 mars.
Ah, je suis pas loin. Voilà.
Donc viens des nombreux.
Ah, ça
va être... Alors évidemment, ça va trancher, faut être prévenu. Hein. C'est pas que du bon goût, hein, quand même, faut le dire. Et donc voilà.
Amis du bon goût et de la poésie, bonsoir.
c'est un peu ça.
Tout à fait.
Pas d'autres émissions, Laurent?
Non, là tout de suite en ce moment. Donc.
Non, ça ouais. Va, pas tout de suite. Oh, t'en as fait quand même 4 la semaine dernière, non? C'est ça?
Non, bah si vous écoutez Yata, j'y suis en ce moment. Hein. Si le clip passe en ce moment, j'y suis.
C'est
ah, vous, tu me poses des questions, je te réponds. Hein.
Bon, Yata, c'est fait, ça va trancher. C'est fait. Bon, bah il reste plus grand chose hein, comme podcast où t'y es pas.
Ouais.
Si, Queen.
Si. Bah si, hors cadre, c'est quoi hors cadre?
Ah non, tu n'auras jamais de hors cadre. Hein. C'est obscène ce que tu fais, c'est obscène. Bon, avant de terminer, des petits remerciements, même un grand remerciement pour Pod Radio, qui inclut le podcast sur sa grille de programmation. Donc sur le canal Gamma, le jeudi 14h30 et le samedi 21h, on est bien placé, je trouve. Et si vous voulez nous écouter ou même découvrir d'autres podcasts, allez-y. D'ailleurs, allez regarder le journal du Papy Cureuil, fait par Phil et Pof du P2P. C'est complètement barré, et je mettrai le lien, vous allez voir, c'est excellent. Et hop, je vais terminer cette émission.
Mais t'as même pas dit où on te retrouvait, toi.
Ah oui, mais moi, comme d'habitude, hein.
Sur votre Twitch Plays Pokémon.
Twitch Plays Pokémon en live tweet.
Et Armos demande si un pod Rennes est prévu.
Oui, je suis en train de remettre les mains dans le cambouis et ça va arriver. Il faut qu'on trouve un endroit.
Ah.
Il y en aura un deuxième. Hein. On a plein d'idées. On fera peut-être même faire un barbecue, ça va être sympa. Donc amener des saucisses. Hein. Enfin, voilà.
Le programme.
Voilà. Et donc là, je vais pouvoir terminer cette émission. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le Twitter @leséclaireurs, leséclaireurspodcast.wordpress.com, podcastfrance, podradio.fr, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Ciao, salut.
Salut.
Salut à tous.
Voilà.
Yo.